Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Bonjour, je suis au téléphone avec Françoise Combes. Françoise, tu es astrophysicienne. Alors, si je suis en présence d'une astrophysicienne qui planifie des missions spatiales pour explorer l'univers, je n'hésite pas une seconde. J'écoute David Bowie, Space Oddity, 1969, juste avant Apollo 11.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Tu es professeur au Collège de France et tu es aussi vice-présidente de l'Académie des sciences. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'astrophysique. J'essaye de faire quelques émissions autour du thème des femmes dans la science. D'autant plus que notre académie va bientôt sortir un rapport sur cette question. Tu es parfaitement placée, tout d'abord parce que tu es une femme, et d'autre part parce que tu m'as dit l'autre jour que tu es en charge d'une cellule harcèlement au Collège de France. J'ai bien compris ?
Exactement, oui, harcèlement des violences sexistes et sexuelles au Collège, oui.
Alors, j'ai essentiellement deux types de questions à te poser. D'abord, on pourrait commencer par la question générale. Comment se passe ta fonction de cellule harcèlement au Collège de France? Quelles sont tes responsabilités? Comment ça marche? Est-ce que ça marche? Et peut-être dans un deuxième temps, si tu veux bien, on discutera de ton expérience personnelle et de ton rapport avec ces questions de harcèlement dans ta vie personnelle, si tu le veux bien. Alors, c'est quoi ton boulot?
Alors, le travail, c'est surtout sur alerte. On attend les alertes soit de plaignants, de victimes de ces harcèlements, ou alors de témoins de harcèlement. Donc, on a à la fois un témoignage et puis une plainte de la victime. Et donc, nous sommes deux, là. Il y a Xavier Leroy aussi au collège qui est sur ce téléphone d'alerte. On essaie d'estimer vraiment la gravité du problème et si c'est exactement un harcèlement. Ça peut être un harcèlement moral, mais pas à caractère sexiste ou sexuel. Donc là, on va essayer de le déterminer. Et puis, lorsque c'est vraiment caractérisé, alors on essaie d'alerter l'administration, l'administrateur, on essaie d'alerter les cellules qui pourraient réagir ensuite, cellules juridiques, voir un petit peu ce que l'on peut faire.
Je te coupe tout de suite. Cette alerte, elle est spontanée, volontaire, par la personne qui est harcelée ou par personne qui est témoin d'un harcèlement?
Oui, elles sont dans les deux cas, c'est volontaire, mais on les a déjà prévenus qu'il y avait une cellule.
D'accord.
Savoir, il faut que les plaignants sachent à qui s'adresser. C'est ça l'essentiel.
C'est par téléphone?
À email. Alors on peut ensuite leur téléphoner pour avoir un peu plus de détails, hein, s'ils le veulent. Mais c'est par email. Et donc, email général, alors au début, on n'est pas censé donner notre nom. Alors on le fait si vraiment ça vaut le coup qu'on va les rencontrer. Mais ça peut très bien aussi être un peu anonyme.
Et tu reçois beaucoup de plaintes?
Non, pas énormément. On en a eu deux ou trois depuis le début. C'est depuis un an ou deux, donc ce n'est pas tous les jours.
C'est des plaintes caractérisées?
Oui, ça c'est vraiment des plaintes caractérisées. Et à chaque fois, il y a eu une réponse tout à fait adaptée de l'administration qui a essayé de voir le responsable de l'harcèlement et d'avoir des sanctions, des avertissements envers ces personnes-là.
Est-ce que ça se passe à l'intérieur du collège, en quelque sorte dans la discrétion, ou bien est-ce que ça s'est rendu un peu plus public, ou est-ce que ça va jusqu'au commissariat de police ou...
À présent, c'est resté à l'intérieur du collège.
Et qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que c'est à peu près adapté. Maintenant, s'il y a une récidive, on verra un petit peu. Pour l'instant, c'est adapté et ça a calmé la situation.
D'accord.
Et ça permet d'isoler les plaignants et les responsables et qu'ils ne se rencontrent plus. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
Alors, sans rentrer dans des détails que tu n'as pas raconté, il s'agit de choses graves, de genre viol ou au contraire de comportement inadapté?
Non, c'est comportement inadapté et ça s'arrête là. On n'a pas encore de choses très graves.
De la part d'un supérieur vers une inférieure?
C'est un peu des deux. Un peu des deux, non, c'est pas forcément. C'est même parfois égalité de niveau.
Au niveau professoral?
C'est pas allé jusqu'au professeur, non, pas du tout.
Non, parce que les professeurs au Collège de France sont parfaits, bien sûr.
Bien sûr.
Dis-moi, quelques petits mots sur le Collège de France. Où est-ce que vous en êtes au niveau parité, au niveau féminisme, à l'intérieur du Collège de France, au niveau statistique?
Alors là, par exemple, en statistique, c'est un petit peu comme l'Académie, hein. On est arrivé très lentement. Comme tu le sais, l'académie, c'est une académicienne a été élue en 1979. Là, c'était à peu près un tout petit peu avant, quelques années avant qu'on a eu une élue au Collège de France en littéraire, hein, un petit peu avant l'académie, mais très peu avant. Donc, ce n'était que dans les années 1970 à peu près qu'il y a des femmes élues.
Et il y a une sensibilité qui s'est améliorée sur ces questions?
Et un petit peu. Donc, et ce qui est curieux, c'est qu'on a beaucoup de littéraires, nous, par rapport à l'Académie des sciences. Et donc, on aurait pu penser que, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes du côté littéraire que du côté scientifique en général, hein, puisque c'est le contraire de ce qu'on passe scientifique, eh bien, ce n'est pas le cas au niveau des professeurs. Comme dès qu'on arrive à un certain niveau, il y a un plafond de verre bien connu, ce qui fait que même dans les disciplines comme la biologie où les jeunes scientifiques femmes se dirigent plus volontiers que par exemple en maths ou physique, eh bien, on n'a pas le renversement qu'on pourrait s'attendre lorsqu'on va à plus haut niveau. Donc finalement, même parmi les biologistes et littéraires, la fraction de femmes n'est pas aussi grande que l'on pourrait espérer. Alors nous sommes à, 15%, 18%, 15-18% comme l'académie. Exactement.
Est-ce que, comme à l'Académie, vous allez mettre en place un certain nombre de mesures? Par exemple, on en discutait encore récemment sur le fait de tenir compte des femmes qui ont eu des enfants ou des choses comme ça?
On en prend en compte. On n'a pas d'âge limite. Donc, de toute façon, en effet, on n'a pas ce problème, par exemple, à l'Académie pour des prix. On a certaines âge limite, et on peut, en effet, jouer là-dessus. Mais là, pas du tout. Donc, on essaie quand même, lorsqu'on a tout un panel de candidats, d'essayer de favoriser les femmes en qualité égale de dossier. Donc là, on essaie de faire beaucoup d'efforts. Et puis à la fin, c'est pas forcément autant que ce qu'on pourrait attendre, finalement. Donc il y a encore des préjugés, encore des stéréotypes qui nous empêchent de prendre la bonne fraction de femmes qui correspondrait au vivier de ce qu'on a dans les sciences correspondantes. À un niveau plus bas.
Maintenant, je vais être un peu plus personnel. Commençons par le Collège de France. Est-ce que, à l'intérieur du Collège de France, dans les débats, à l'intérieur du Collège des professeurs, je ne sais pas, au moment des recrutements de nouveaux professeurs ou autres, est-ce que tu as déjà été témoin, disons, de comportements inadaptés ou de préjugés désagréables ou de professeurs qui méprisent ou qui minimisent des candidates?
Alors, c'est pas très, très ouvert, mais c'est un petit peu subtil. Alors, en effet, subtilement, oui. On voit que certains ne considèrent pas à la même hauteur les candidates féminines que les candidats. C'est clair, on en a un petit peu de préjugés. Et ce n'est pas seulement des hommes d'ailleurs, il y a aussi des femmes. Ce qui veut dire que les femmes sont aussi entraînées dans ces stéréotypes. Mais ce n'est pas très, très flagrant, c'est légèrement subtil. C'est pour ça qu'on arrive à un pourcentage de femmes qui n'est pas celui auquel on pourrait s'attendre en fait, en fin de compte. Mais c'est vrai.
Heureusement, il n'y a pas que le Collège de France dans la vie. Tu as eu une vie avant le Collège de France.
Mm-hmm.
Est-ce que dans ta vie précédente, tu as été, tu as commencé ta carrière comme une chercheuse, on peut dire, lambda. Est-ce que pendant cette période d'initiation, tu as subi des pressions, des harcèlements explicites ou implicites, ressentis ou véritables ?
En fait, pas du tout. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas, parce que peut-être je ne m'en rendais pas compte.
Voilà.
Je me suis aperçue de ces discriminations et de ces comportements un petit peu plus subtils assez tard dans ma carrière. Au début, je pensais que j'étais comme un homme, finalement. Mm-hmm. Il n'y avait aucune différence. Et ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'en effet, il y avait quelques subtiles différences qui arrivaient finalement dans les carrières, dans les promotions, etc. Par exemple, moi, j'ai eu un poste permanent que 14 ans après la première thèse.
Ah.
J'ai eu des postes précaires un petit peu et c'était un peu difficile. Alors, est-ce que, sur le moment, je me suis dit, il y avait beaucoup d'hommes aussi qui avaient des carrières difficiles. Donc, je me suis aperçue. En rétrospection, peut-être, il y a un petit côté.
J'ose pas te dire que j'ai eu un poste permanent avant ma première thèse.
Ah oui, alors là. Donc, ça a peut-être un peu joué, mais on peut pas savoir. Avec un cas particulier, il faut avoir une statistique. Donc, je me suis aperçue de rien du tout.
Justement, donc, tu ne te présenterais pas comme une militante féministe ?
Pas du tout, non. C'est sur le tard que je me suis aperçue des différences. C'est-à-dire, une fois que tout était fait, vers 40, 50 ans peut-être, au début, je me suis aperçue de rien du tout.
Donc, tu n'as jamais participé à des manifs ou tu n'as jamais été
Absolument
membre du
pas.
MLF ou,
Non, pas du tout.
D'accord. Et maintenant, ça monte progressivement et tu es prête à être un peu plus combative ?
Non, je suis un petit peu forcée parce que les gens me voient dans cette situation et me disent « Ah, tu devrais être un modèle pour les jeunes filles, etc. » Donc, je m'en préoccupe beaucoup plus qu'avant. Avant, je n'avais pas l'impression d'être un modèle quoi que ce soit. Et je vois qu'en effet, il faut encourager les jeunes filles. Donc, il faut montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas que les hommes qui y arrivent, que aussi les femmes. Donc, j'essaie d'avoir un rôle dans ce sens, mais ce n'était pas le cas auparavant, non, pas du tout.
Est-ce que tu as un point de vue sur ce qu'on appelle les rôles modèles ?
Oui, je pense que c'est très important. Je pense que c'est important qu'il y ait les jeunes filles, lorsqu'elles aient un petit peu une idée de ce qu'elles veulent faire plus tard, et des exemples devant elles, parce que sinon, on a l'impression que ce n'est pas possible, qu'il y a des portes qui sont fermées. Moi, quand je suis arrivée dans la carrière, toutes les portes étaient ouvertes. Donc, c'est pour ça que je me suis aperçue de rien. Je suis rentrée à l'école normale lorsque l'année d'après, il y avait Anne Chopinier qui rentrait à l'X. Donc, j'avais l'impression que tout était ouvert. Je n'avais pas du tout envie d'entrer à l'X d'ailleurs. Mais toutes les écoles étaient ouvertes à ce moment-là. Toutes les portes, tous les métiers étaient ouverts. Plus tard, je me suis aperçue qu'en effet, j'avais eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée juste au moment où tout était ouvert et il n'y avait plus rien de fermé.
Oui. Est-ce que tu ne crois pas que, puisqu'on est presque de la même génération, toi et moi, on a consacré une partie très importante de notre vie à la recherche. Et j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, y compris les jeunes brillants, considèrent qu'on peut aussi faire de la recherche sans y être complètement impliqué, sans être complètement dédié à la science. Est-ce que tu comprends ce phénomène ?
Oui, je comprends cela, d'ailleurs, mais même dans notre génération, il y avait beaucoup de gens qui avaient le temps d'avoir des loisirs, des vacances, etc.
Ouais.
Ça, c'est un choix que l'on fait. Il y en a qui sont beaucoup plus passionnés que d'autres dans leur travail. Donc, c'est mon cas, en fait. J'ai pas l'impression de travailler quand je travaille à la recherche.
Ben moi,
j'ai l'impression que c'est un loisir. Donc, j'ai l'impression que je suis tout le temps en vacances toute l'année.
Bah, c'est un peu comme la plupart d'entre nous, à vrai
dire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas l'impression que j'ai besoin d'avoir une autre vie à côté de la recherche, vu que, enfin, surtout dans notre cas, nous avons beaucoup de colloques, nous avons beaucoup de voyages, je fais un voyage par mois. Donc, évidemment, dans ces conditions-là, je peux faire un peu de tourisme en même temps que je vais faire des observations, que j'en colloque. Donc, j'ai pas l'impression que je manque de quoi que ce soit.
Mais est-ce que tu constates, comme moi, que beaucoup de nos jeunes collègues, y compris les plus brillants, ont une perception différente de leur vie scientifique ?
Oui, c'est vrai. Ils ne consacrent pas. Enfin, j'en vois encore quelques-uns autour de moi, des jeunes, qui ne s'arrêtent jamais de travailler. Hein.
Oui, oui, oui.
Mais j'en ai une grande partie qui, en effet, aimerait avoir une vie bien déconnectée en dehors, de laisser un petit peu leur vie en dehors du bureau, quoi. En quelque sorte, si on peut appeler ça bureau.
Mais, oui, c'est le bureau. Est-ce que tu crois qu'ils sont brimés pour ça dans leur promotion ? Ceux qui affichent qu'ils revendiquent le droit de ne pas faire que de la science.
C'est difficile à dire. Eh bien, tout dépend de leur qualité, de leur intelligence, de leur créativité, de leur imagination. Il y en a qui sont très, très, très brillants et qui arrivent, même à, en n'ayant que 30% de leur temps de travail, à des résultats merveilleux. À ce moment-là, ça peut marcher. Et certains, une grande partie, les réussites dépendent de leur travail. Donc, ceux qui ne travaillent que la moitié du temps, eh bien, ils ont la moitié de résultats. Et donc, ils ne sont pas compétitifs. Et donc, ils sont bons.
Bon.
C'est un peu ça.
Tu as des enfants, n'est-ce pas ?
Oui, trois.
Est-ce que ces enfants ont été, d'une certaine manière, un obstacle à ta vie scientifique, ou au contraire, une poussée ? Ou est-ce que tu as vécu ça de manière facile, ou ça a été un moment très difficile dans ta vie scientifique ?
Non, ça a été assez facile. Bon, je ne suis pas vraiment arrêtée. Et j'ai pris quand même un congé, comme ça je n'avais moins d'enseignement à faire. Je pouvais faire de la recherche encore plus.
Voilà.
Et puis, mais je ne me suis pas vraiment arrêtée et j'ai été bien aidée par mon conjoint qui était un type de père moderne, on dirait, qui s'occupait aussi des enfants à moitié chacun. Donc finalement, ça s'est très bien passé. Et je pense que c'était plutôt une joie qu'un ennui, bien entendu.
Et pour terminer, la fin de 2001 Odyssée de l'espace, de Kubrick. L'arrivée sur Jupiter, cette scène inoubliable. Eh bien, écoute, Françoise, nous avons parlé 16 minutes et 19 secondes. C'est parfait comme durée. Et je te remercie infiniment. Voilà.
Merci beaucoup, Étienne.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.